écoutez The Journal avec moi Mathilde au micro,
moi Chloé et Anna la technique.
On se retrouve pour notre dernière émission.
Et pour l'occasion, nous avons préparé un super programme riche en interviews.
Accrochez-vous bien, The Journal, c'est dans un instant.
Aujourd'hui au sommaire,
Anne-Caroline Prévost, chercheuse, nous explique la transition écologique.
Olivier Brochet, directeur de l'AEFE, présente le bac français international ou BFI.
Emma Cibou et Monsieur Sorel vous proposent de rejoindre l'orchestre du lycée.
Théâtre de rue avec l'interview d'un comédien de la pièce Des Misérables.
Et pour finir, Alexandra, une élève de l'échange ADN, qui nous parlera de son expérience. Débutons avec l'environnement.
En effet, Mathilde, le 22 mars dernier, les élèves de l'atelier écologie ont eu la chance de rencontrer Anne-Caroline Prévost.
Anne-Caroline Prévost est chercheuse au CNRS. Elle est sociologue et écologue.
Elle est intervenue au lycée pour expliquer ce qu'est la biodiversité et l'importance de la préserver.
Elle a répondu à quelques questions qu'on lui a posées.
Retrouvons-la.
Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi d'orienter vos efforts vers la préservation de la nature ?
Je suis écologue de formation, donc j'ai commencé à travailler en écologie scientifique pour comprendre les fonctionnements de la biodiversité et de la nature. J'ai commencé à m'intéresser à la relation qu'on avait avec et comment la protéger quand je suis rentrée dans un laboratoire d'écologie à Orsay, au début de ma carrière. Je suis rentrée dans une équipe de recherche qui faisait de la biologie de la conservation. C'est une discipline scientifique qui vient de l'écologie scientifique, mais qui décide de s'attaquer aux questions de biodiversité. Et donc, qui s'intéresse à la conservation de la biodiversité et à la crise, en fait, de la biodiversité. Et petit à petit, ça m'a pris quand même beaucoup de mon temps et de mon énergie. Et maintenant, je suis convaincue qu'il faut faire comme ça.
En quoi consiste le poste de directeur de recherche au CNRS et le travail d'écologue ?
Directeur de recherche au CNRS, c'est un statut, c'est l'équivalent de professeur à l'université. En fait, je suis chercheuse. Le travail de chercheuse au CNRS, on est fonctionnaire, on est payé par les impôts des Français et des Françaises pour faire de la recherche, pour répondre à des questions de recherche qui intéressent la recherche scientifique. Je me pose des questions qui, je pense, intéressent la société et les dynamiques sociales et écologiques dans le futur. Écologue, c'est une des disciplines scientifiques qui s'intéresse à la compréhension du fonctionnement de la nature et de la biodiversité. Moi, je suis donc biologiste de la conservation, puisque je m'intéresse aussi à la crise et à comprendre la crise de la biodiversité et comment est-ce qu'on peut résoudre ça. Je travaille à l'interface, en interdisciplinarité, avec les sciences humaines et sociales, parce que les écologues ou les biologistes de la conservation, nous, on a les moyens scientifiques de comprendre le fonctionnement de la biodiversité et de la nature, mais pas des humains. Et c'est des scientifiques des sciences humaines et sociales qui développent des moyens scientifiques, des concepts, comprendre le fonctionnement des humains, mais pas de la nature. Et donc, quand on fait les deux en interdisciplinarité, on peut essayer de comprendre les deux.
Vous insistez, comme vous le disiez souvent, sur la réconciliation entre les hommes et la nature. Quels sont des pas ou des choses qu'on pourrait mettre en place pour atteindre cet idéal ?
En termes de réconciliation, ce n'est pas un terme qui vient de moi, hein, c'est un terme qui a été proposé par un écologue américain, et avec cette définition qui était plutôt de dire « faut laisser la place pour tout le monde ». Donc, ce n'est pas forcément faire ami-ami, quoi. C'est juste laisser la place pour tout le monde. Et moi, mon objectif, la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, c'est d'essayer de proposer des pistes ou des connaissances qui permettent à chacun de se positionner, de trouver sa propre place au sein du monde vivant. Et ces places-là, elles vont être différentes en fonction des gens. Et ce n'est pas à moi de dire quelle est la bonne place. Mais par contre, en tant que scientifique, d'apporter le plus de choses possible pour que chacun puisse trouver sa place. Et j'ai l'intuition que si on trouve que chacun puisse trouver sa place, à ce moment-là, il va se passer des choses entre les êtres humains sur la façon de fonctionner ensemble.
C'est vrai.
C'est mon intuition.
Dans ce moment clé dans l'orientation de beaucoup d'élèves en terminale et en première, est-ce que vous pouvez un peu expliquer votre parcours d'études pour des élèves qui voudraient suivre un peu le même chemin ?
Ouais, alors sauf que mon parcours d'études, il a commencé, je suis vachement plus vieille que vous, donc du coup, ça a beaucoup, beaucoup changé, surtout. Donc là, maintenant, avec la réforme du bac, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai fait un bac scientifique, hein. C'était quand même très cadré. En première, on commençait à s'orienter, en terminale, on s'orientait encore plus. Et je faisais des maths, de la physique et de la bio, quoi. Et j'ai fait une prépa et je suis rentrée dans une grande école. Après, c'était l'école normale supérieure où je suis retournée à la fac, parce que c'est pas une école d'ingénieur. Et après, j'ai fait licence, master et doctorat. Donc ça, c'est quand on veut être chercheur, il faut faire un doctorat. il faut que vous alliez à la fac ou dans une grande école, mais que vous rejoigniez ensuite le système LMD, donc licence master doctorat. Vous fassiez donc ces 3 ans de thèse, de doctorat, et qu'ensuite vous soyez chercheur ou chercheuse.
Est-ce que vous avez des projets futurs que vous pensez mettre en place ? Des projets de recherche ou avec les sciences humaines ou écologues ?
Actuellement, je m'intéresse à la place de la nature dans les œuvres culturelles. Ma façon de faire de la recherche, comme beaucoup de mes collègues, hein, c'est que là, je reviens à refaire de la recherche moi-même. Et là, ma recherche actuelle, personnelle, que je garde pour moi toute seule, c'est de travailler sur la place de la nature dans les romans français. Les plus lus en ce moment. Donc, je cherche à aller interroger les auteurs et les autrices de ces romans pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à mettre de la nature dans leurs romans ou pas, quoi. Mais par contre, je ne m'intéresse pas qu'à ça. J'encadre pas mal de doctorants et doctorants en thèse et qui travaillent sur des questions de relation à la nature.
Avez-vous un message en particulier à faire passer aux jeunes de cette génération ?
Restez positif et puis trouvez votre positionnement en fait, dans le monde vivant. Trouvez votre positionnement et partagez-le. Ce que j'encourage, enfin ce que je voudrais que tout le monde fasse, c'est qu'il le trouve ce positionnement. En prenant tous les moyens que vous voulez.
Merci beaucoup.
I got a woman. Way over town, that's good to me. Oh yeah, say I got a woman. Way over town, good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman. That's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah.
C'était I've Got a Woman par Ray Charles.
Le vendredi 28 avril s'est tenue l'inauguration de la mise en place du BFI au lycée.
Mais c'est quoi le BFI, Chloé ?
Le BFI est l'acronyme pour le Bac Français International.
Ce nouveau programme commence au lycée dès l'année prochaine.
Pour marquer cette journée, le directeur de l'AEFE s'est exprimé lors d'une conférence.
Nous avons eu la chance de pouvoir lui poser quelques questions.
Écoutons-le.
En fait, la structuration du BFI, déjà, il peut être bilingue, il peut être trilingue, il peut être quadrilingue. Donc, c'est déjà une grande différence avec l'OIB. Et puis, il permet également de tenir compte, je pense, un peu mieux à la fois des aptitudes linguistiques élargies de nos élèves sans qu'ils soient peut-être dans une forme d'hyperspécialisation. Là, le BFI, il peut se mettre en place sans être l'aboutissement d'une section internationale, même si il est vraisemblable que dans tous les établissements, il y aura des sections internationales, mais pas obligatoirement sur le cycle terminal. Ça peut être des sections internationales dans le primaire, dans le collège, etc. C'est à la fois un dispositif qui est plus souple, qui permet vraiment aux établissements de bien travailler sur les besoins de leurs élèves. C'est très positif. Et puis, je pense que ça va stimuler, du coup, dans tous nos établissements, les travaux qui sont déjà engagés, que vous connaissez ici au lycée français de Barcelone, pour avoir des vrais parcours plurilingues qui se mettent en place, en fait, dès la maternelle, hein, et qui nous permettent d'avoir des compétences. Ces compétences, la plupart des élèves les ont déjà très solidement, mais dans le dispositif du bac traditionnel, c'était peut-être pas assez valorisé et valorisable à l'extérieur et notamment pour l'accès aux études supérieures. Là, le BFI, c'est vraiment quelque chose qui permet de certifier des compétences linguistiques et culturelles dans toutes les langues qui font partie du BFI et qui seront extrêmement visibles. Donc on fonde vraiment de très grands espoirs sur le développement du BFI. Il est très bien parti dans le réseau, hein, puisqu'on est actuellement à plus de 100 établissements du réseau qui ont déjà mis en place le BFI. Le lycée français de Barcelone est l'un de ceux qui sont plus que dans les starting blocks maintenant et qui vont avoir le BFI. C'est très important. D'une façon générale, sachez que le réseau à l'étranger, que ce soit avec le BFI, avec les sections internationales, est moteur de cette politique du plurilinguisme. Il y a 360 ou 370 sections internationales dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. On se rapproche bientôt de la moitié du nombre de sections internationales qui existent dans l'ensemble de l'éducation nationale. Je crois qu'on est à 40% à peu près. Le BFI, on a 101 BFI qui sont déjà mis en place et puis je crois qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine qui sont en préparation. Là aussi, on pèse beaucoup plus encore qu'en France. Donc c'est aussi une marque pour nos lycées et c'est très important.
Quelle est la plus-value du plurilinguisme au sein des établissements de l'AEFE ?
Je crois qu'il y a une attente qui est très très forte de la part des familles et de la part des élèves de pouvoir vraiment maîtriser non seulement des langues, mais maîtriser également toute la culture qui va avec ces langues. C'est une attente qui a été croissante partout. C'est devenu un enjeu majeur de l'éducation parce qu'il y a eu la mondialisation, parce que tout le monde bouge, parce que les entreprises sont à la recherche de personnes qui ont justement ces aptitudes. Et donc, ben, l'éducation s'y adapte et il est important pour nous d'offrir quelque chose. Mais ce qui est important également pour nous, c'est que on ne soit pas, entre guillemets, dans du bricolage pédagogique. Ce n'est pas des gadgets, la question de l'apprentissage des langues. C'est un processus très compliqué qui doit être très structuré. C'est ce que l'on fait dans nos établissements. C'est ce résultat final qui fait qu'on a des élèves qui sont à l'aise avec les langues et donc qui sont à l'aise avec le monde contemporain, qui fait pour moi l'un des atouts majeurs du plurilinguisme, au-delà du fait que c'est quelque chose qui favorisera la meilleure insertion professionnelle pour tous. Et puis à titre individuel, c'est toujours une ouverture extraordinaire de pouvoir maîtriser. Puis plus on apprend de langues, plus c'est facile d'apprendre des langues. Donc c'est bien. Il vaut mieux partir avec un bon capital à 18 ans parce que quand on se rapproche de 50, 60 ans, ça devient plus dur d'apprendre des nouvelles langues. Et puis bah, vous souhaitez à toutes et à tous un bon troisième trimestre, à ceux qui passent des examens, une belle réussite, une belle orientation en post-bac et puis d'une façon générale, bah, surtout soyez heureux. Merci.
À savoir que vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de la radio. Je viens d'entendre Every Note par Mystery Skulls. Place à l'orchestre, réalisé par Monsieur Sorel et pensé à l'origine par Emma Cibou. Cet atelier a débuté en septembre et tous les jeudis soirs, il répète. Nous pouvons y retrouver du piano, du violon, de la guitare, de la flûte traversière et de la batterie.
Nous avons rencontré nos jeunes musiciens.
Les voici au micro de The Journal.
Je m'appelle Emma Cibou. C'est moi qui ai donné l'idée à Monsieur Sorel pour former cet orchestre cette année. Et c'était juste d'avoir un temps dédié pour les élèves passionnés par la musique, de pouvoir jouer ensemble et profiter de tout ce qu'on peut créer avec nos instruments. Donc moi, je joue de la flûte traversière. Oui, c'est juste un très bon exercice de groupe. On a vraiment créé beaucoup de liens forts entre nous et c'est juste un très bon moment passé ensemble.
C'est un atelier orchestre. Et c'est une excellente idée, parce que c'est une chose qui n'a jamais existé, parce que la musique, malheureusement, déjà, ça s'arrête en troisième pour la majorité des élèves. Donc le fait de pouvoir continuer pour certains après, plus tard, avec cet atelier, est une bonne façon de mettre en valeur cet aspect musical qui se font négliger.
Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu t'assois devant ton instrument, que ça soit un clavier ou un piano ?
C'est partagé. Des fois, il faut faire des efforts, ce qui n'est pas toujours plaisant à faire. Il faut travailler les partitions. Et puis d'autres fois, c'est juste de la relaxation. On s'en va dans un autre monde, juste peuplé de ses émotions, jouer ce qui nous tient à cœur.
Je m'appelle Marley. Je pratique le piano acoustique.
Qu'est-ce que ça représente pour toi qu'en terminale ?
Je trouve que c'est une idée novatrice qui permet aux jeunes artistes de s'exprimer musicalement. Donc on a des jeunes de tout âge, ça peut aller de 8 ans à 16, 18. Je trouve ça assez intéressant comme idée et il faudrait la développer dans les années qui viennent. Et je prends beaucoup de plaisir à y jouer, ça fait 8 ans que je joue cet instrument. Et je trouve que c'est vraiment un instrument qui n'est pas habituel vraiment dans les orchestres, mais qui peut très bien s'intégrer dans ce type d'orchestre.
José Andrés,
quel instrument tu joues ?
Le piano.
C'est dans quelle classe ?
Cinquième.
C'est pas drôle là d'être avec pas mal de grands ?
Ouais, c'est intéressant et aussi c'est notre ambiance, c'est bien.
Comment ils t'ont accepté ? Comment t'as pu faire ta place dans cet orchestre ?
J'ai pas fait trop d'efforts pour trouver ma place. Et c'est très bien parce que les terminales, ils sont très bien.
Est-ce que t'as l'impression que tu progresses grâce à eux ?
Ouais, socialement aussi.
Marcel, je suis trianguliste, ce qui veut dire que je joue aucun instrument. Mais comme j'avais la curiosité, j'ai venu ici et on me fait jouer des percussions, j'aide un peu. Mais je profite pour un peu enrichir ma culture.
Pourquoi tu viens là pendant une heure le jeudi ?
Je trouve la musique très intéressante, j'ai jamais eu l'opportunité d'apprendre. Donc j'en profite pour améliorer ma culture musicale. C'est une expérience très enrichissante.
Donc bonjour, je suis guitariste dans l'orchestre ULFV depuis il y a déjà le début de l'année. Merci d'ailleurs à Emma pour avoir créé cet orchestre. Ce que j'adore de cet orchestre, c'est que ça nous permet aussi de nous séparer un peu des devoirs, de tout ce qui est le stress d'être en terminale, tous les examens, tous les devoirs, arriver chez soi à 18h40 et avoir encore beaucoup de devoirs. Donc pouvoir profiter un moment de la musique, ça fait un moment que je jouais pas, je trouvais vraiment pas le temps. D'une certaine façon, m'obliger à venir jouer de la musique et en profiter, c'est vraiment très bien.
Bonjour, je m'appelle Kinan, je suis batteur dans cet orchestre. Des fois je joue au piano, mais ici je suis le batteur. Je trouve que c'est vraiment excellent de faire l'atelier d'orchestre. Même si on finit à 19h40, je trouve que c'est mieux que juste rentrer à la maison tôt. Parce que ici on ressort l'énergie qu'on garde pendant toute la journée à l'école. C'est un peu comme faire du sport, mais on ressort notre énergie de façon musicale très raffinée et... Bon, peut-être pas comme batteur, mais c'est quand même raffiné la batterie si tu sais bien jouer. C'est pas du n'importe quoi non plus. C'est pour ça que je fais l'atelier orchestre, c'est très amusant, c'est très intéressant, ça nous donne beaucoup de culture. Je trouve que c'est bien pour tout le monde.
Je m'appelle Louis Arnoux, je suis violiniste. J'ai découvert cet atelier d'orchestre à travers Emma quand elle a proposé comme idée. J'ai trouvé que c'était quelque chose d'incroyable parce que toujours trouvé assez triste le fait de devoir arrêter la musique en troisième ici à l'école. Et moi, je joue le violon depuis il y a longtemps. C'est une très bonne expérience pour découvrir la musique dans une nouvelle perspective. La grande majorité des personnes qui jouent à l'instrument connaissent la musique de manière individuelle. Ils jouent, ils pratiquent, ils ont un professeur. C'est très, très individuel, très centré sur eux. Mais quand on joue en groupe, on doit s'écouter les uns les autres. Il y a un véritable effort qui est tout un nouveau monde à découvrir en réalité, parce qu'on peut être très fort techniquement, mais on est incapable de jouer une pièce très simple en groupe, parce qu'on est incapable d'écouter, incapable de s'adapter à différents rythmes. Et je trouve que c'est un bon exercice pour n'importe quelle personne.
Monsieur Soreil, professeur de musique, chanteur d'opéra, réalisateur de comédies musicales, de spectacles extraordinaires pour Noël, pour le mois de juin, la chorale. Et alors là, cette année,
orchestre. Voilà. Non, je suis très content. Nous sommes une quinzaine d'élèves, tout d'un coup, ensemble, en train de faire de la musique, et ça fait très plaisir. Ça manque un peu au lycée, un ensemble aussi de cette qualité, parce que c'est des élèves qui savent jouer déjà, se lancent dans les comédies musicales, des différents morceaux, aussi du classique, un peu de jazz si on peut. C'est agréable, quoi. Voilà.
Et au niveau pratique, alors, il y a des élèves qui jouent de la batterie. Elle est où, la batterie ?
Alors la batterie, elle est à côté parce que la batterie est très forte. Donc on le met à côté, comme ça les élèves qui jouent de la batterie peuvent aller travailler. Et à la fin, on emmène la batterie ici et on fait le morceau ensemble.
Sur un morceau, tous les élèves jouent ?
Alors la plupart, oui. Parce que j'essaie de faire un arrangement. S'il y a des instruments qui manquent, ben, je vais écrire une partie pour cet instrument. Et donc comme ça, tout le monde peut participer pour chaque morceau.
Écoutez Suddenly I See par Catherine Stale et Eye to the Telescope.
Passons maintenant au théâtre de rue avec la pièce des Misérables.
Vous avez pu remarquer il y a quelques semaines qu'une scène a été improvisée devant l'Agora.
Le lycée a eu le plaisir d'accueillir une troupe de théâtre venue présenter une adaptation des Misérables de Victor Hugo.
Émile, un des comédiens, a été interviewé par notre reporter Gabriella.
En avant avec Émile qui nous explique son métier et son rôle dans cette pièce.
Quel est votre prénom ?
Bonjour, moi c'est Émile et je joue Marius, Fantine particulièrement, deux, trois autres personnages. Je dirais que mon personnage préféré que je joue, auquel je m'attache le plus, c'est Fantine, c'est celle à qui j'ai envie de donner le plus. Marius, vu qu'il est proche de moi, j'ai un peu du mal à l'aimer, mais des fois je me moque de lui. Ça, je sais faire. Il faudrait que j'arrive à l'aimer plus. Alors que Fantine, j'ai vraiment de la compassion pour elle, ouais.
Quand avez-vous commencé le théâtre ?
En fait, j'ai commencé à danser et je pense que la danse, c'est aussi une façon de faire le théâtre parce que c'est beaucoup le corps à partir de 5 ans. Et après, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais adolescent, préadolescent. Puis j'ai passé une petite dizaine d'années à faire autre chose, à faire de la technique. Et je faisais du cirque aussi un peu, mais surtout de la technique. Et depuis 10 ans, on va dire, là, je fais ça sérieusement. Du clown, surtout du clown et du théâtre de rue.
Quelle est votre scène préférée
Je crois que c'est le duo avec le balayeur. Quand Marius, il vient, qui s'attend à tomber sur Cosette et qui tombe sur le balayeur. Et que là, le balayeur, il lui fait « Ah oui, c'est elle, ah, 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 ça rigole. » Et j'aime bien cette montée d'état, là.
Quel est votre personnage préféré ?
Mon personnage préféré des Misérables, c'est Éponine, qui n'est pas un personnage plus important, mais que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a une belle philosophie. Elle aime d'un amour universel. Ça veut dire qu'elle l'aime malgré le fait qu'on ne l'aime pas. En amour complète avec le monde, et je trouve ça très beau.
Quelle est votre scène préférée ?
Bah, ma scène préférée, c'est la barricade, parce que c'est le moment où on est vraiment en contact proche-proche avec le public. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour les comédiens, puisqu'en fait, ils font une bataille géante avec le public, et en même temps, le spectacle continue. Donc à quel moment ça va rester en bataille géante, et puis à quel moment le public va revenir ? Donc il y a toujours une tension, donc j'adore cette scène. C'est...
souffle sur le pays très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillé. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre à rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Un monde nouveau, on en rêvait tous. Bah, que savions-nous faire de nos
Vous venez d'entendre Un monde nouveau par Feu Statterton.
Terminons avec le programme d'échange ADN.
En effet, en seconde, ce programme est proposé pour permettre à des élèves d'élargir leur culture du monde.
Nous avons rencontré Geneviève de la seconde 4 et sa correspondante Alexandra, élève au lycée français de Belgrade en Serbie.
Alexandra a bien voulu répondre à nos questions. La voici.
Bonjour Alexandra.
Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 15 ans. Je viens du lycée français de Belgrade, la capitale de la Serbie. C'est un pays limitrophe avec la Bulgarie et la Roumanie notamment.
Pourquoi tu as choisi de suivre ce programme ADN ?
Parce que j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant d'aller voyager dans un autre pays, de découvrir une nouvelle langue ou de continuer, enfin, certaines langues que j'apprends ou que je connais déjà. Aussi parce que ça pouvait permettre de faire de nouvelles rencontres et de voir les différentes manières de plusieurs lycées différents d'enseigner.
Combien de langues tu parles ? Quelles sont-elles ?
Je parle français et russe parce que, en fait, je suis franco-russe, du coup, je parle couramment français et russe. Je parle très bien anglais. Je parle serbe, bulgare parce que j'ai vécu en Bulgarie, allemand, j'apprends le hongrois et voilà.
Et donc là, l'espagnol ?
Pas trop.
T'as pas étudié l'espagnol à l'école ?
En fait, j'ai pris allemand comme deuxième langue.
Quelle est ton expérience ici ? Comment tu la vis ? Tu arrives quand ? Je sais que tu repars dans quelques jours.
Oui. Alors, je suis arrivée pour votre rentrée, donc le lundi de votre rentrée, juste après les vacances. Ici, en fait, c'est très différent de chez moi. Chez moi, c'est une école toute petite. On a deux classes par niveau, on est 20 par classe maximum. On a deux profs par matière à peu près. C'est vraiment tout petit chez moi et c'est vrai que ça fait bizarre de se retrouver dans un endroit aussi grand au début, mais maintenant ça va.
Tes relations avec ta correspondante, comment elle s'appelle ?
Elle s'appelle Geneviève.
Et l'accueil, comment ça se passe avec Geneviève ?
Ça se passe très bien, elle est très gentille et sa famille aussi. Et je suis très contente d'être tombée sur une famille comme ça.
Pour toi, quel est l'intérêt, à part les langues, de faire cet échange ?
De voir les différentes cultures des pays, de voir les différences dans certains pays, les similitudes aussi, de voir que malgré certaines différences, en fait, il y a pas mal de similitudes qui sont, en fait, au niveau de la manière dont on vit, c'est sympa à voir.
Il y a pas mal de similitudes malgré le pays différent et même au niveau géographique.
Oui.
Qu'est-ce que tu pourrais passer comme message aux élèves qui seront en seconde l'année prochaine ?
Stressez pas trop pour les notes parce que cette année, ça compte pas pour le contrôle continu, ça compte l'année prochaine. Mais faites de votre mieux et juste restez concentrés sur vos objectifs. Faites en sorte de choisir des matières qui vous plaisent pour vos spécialités et pas des matières où vous vous dites « Oh là là, mais si je prends pas telle matière, ça va être catastrophique. Il faut que je prenne absolument telle matière. » Pensez pas comme ça, sinon vous allez jamais réussir.
Merci Alexandra. Au revoir.
Au revoir.
C'est California Dreamin', interprété par The Mamas and the Papas.
Et oui, après 6 ans d'existence, cette émission prend fin aujourd'hui.
Oh non.
Et si, Nous vous remercions pour votre fidèle écoute à The Journal.
Et nous espérons vous retrouver un jour.
Malgré tout, vous pourrez toujours écouter nos émissions sur notre site
www.radiolfb.net.
Nous vous laissons avec I'm Still Standing par Elton John. Ciao tout le monde.
Peace.
Meant to cut me down, and if my love was just a circus, you'd be a clown by